politique.
Bonjour, comment peut-on être américain ? La question s'inspire de la célèbre interrogation des Lumières, comment peut-on être persan, celle de Montesquieu au XVIIIe siècle ? Sauf qu'ici, nous n'allons pas faire un état de la société française, ce qui était l'objectif finalement des lettres persanes en 1721. Non, nous allons vraiment nous intéresser à ce qui fait, à ce qui constitue un Américain d'Amérique, si j'ose dire, en cette 20e année du 21e siècle. Nous allons le faire grâce à notre invité Didier Combeau, spécialiste des États-Unis, auteur notamment d'un livre sur les polices américaines et qui cette fois nous propose un essai qui s'intitule « Être américain aujourd'hui » publié chez Gallimard. C'est une radiographie de la société américaine avant l'élection présidentielle de novembre, radiographie d'un pays qui, note-t-il, est le laboratoire de radicalités préoccupantes et de polarisations alarmantes. Voici donc un nouveau numéro d'Idées, le magazine qui interroge ceux qui pensent le monde, un magazine dont vous pouvez retrouver et télécharger tous les numéros sur le site de la radio, par exemple www.rfi.fr à la rubrique « Podcast ». Bonjour Didier Combeau.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes docteur en civilisation américaine, agrégé d'anglais, auteur d'autres livres sur les États-Unis, dont un d'actualité, je le disais, sur les polices américaines, on va sans doute en reparler, publié chez Gallimard en 2018, il me semble, et sur les Américains et les armes à feu, c'était en 2007. Et là, vous nous offrez cette radiographie de la société américaine. Hein. Il ne s'agit pas d'un livre où Trump est au cœur de tout, pour une fois. Il s'agit vraiment des Américains. Et là, je reprends la phrase que vous dites, les Américains... qui sont en quelque sorte dans une radicalité qui peut nous inquiéter.
Oui, effectivement. De plus en plus, il est difficile de trouver aux États-Unis un accord bipartisan. On le voit même en ce moment avec le projet de loi de financement pour l'économie à la suite de l'épidémie de Covid. De plus en plus, les voix qu'on entend sont tout à fait radicales, soit à droite, soit à gauche. C'est effectivement quelque chose d'inquiétant parce que beaucoup de choses de ce fait sont bloquées aux États-Unis et ça ne correspond très certainement pas à l'humeur ou aux opinions des Américains dans leur ensemble. La grande masse des Américains est beaucoup plus modérée que les discours que l'on entend le plus.
Cela est dû en grande partie aussi à Trump. Il faut quand même en parler quelques secondes.
Oui, c'est dû à Trump, effectivement, mais Trump est aussi une conséquence de cette polarisation. C'est le président qui est peut-être le premier président blanc des États-Unis, comme a dit un auteur afro-américain, Ta-Nehisi Coates. Avant l'élection de Trump, tous les présidents qui avaient précédé Obama étaient blancs, mais ils étaient blancs en quelque sorte parce qu'il était, entre guillemets, ordinaire d'être blanc, alors que Trump s'est fait élire en tant que blanc. Et les blancs finalement se sont comportés un petit peu comme une minorité et comme la minorité d'ailleurs qu'ils craignent de devenir et qu'ils vont devenir de toute façon inéluctablement. Et donc Trump a su exploiter cette radicalité. Il ne l'a pas véritablement inventée.
Didier Combeau, vous voyez, on commence et c'est de ma faute cette conversation sur les États-Unis avec Donald Trump. Avec le président, c'est dire à quel point, et vous l'analysez dans le livre, la fonction est devenue prédominante dans ce pays.
Oui, effectivement, il y a eu une présidentialisation au fil du temps. À l'origine, la Constitution donnait la prééminence au Congrès. C'est le Congrès qui fait les lois. Petit à petit, la présidence a pris une place de plus en plus importante et une place d'autant plus importante aujourd'hui que il est très difficile, comme je disais tout à l'heure, de trouver un accord bipartisan. Ce qui fait que les présidents qui se sont succédés ont eu de plus en plus recours aux décrets. C'est-à-dire à des ordonnances qui court-circuitent le Congrès, en quelque sorte. Mais qui sont aussi beaucoup moins pérennes que les lois qui sont votées par le Congrès. Puisque pour défaire une ordonnance, il suffit que le président suivant prenne une ordonnance contraire.
Alors, parlons de cette question être américain aujourd'hui et des valeurs qui ont fondé et qui fondent toujours dans une certaine mesure ce pays. Et vous commencez votre livre, Didier Combeau, avec un personnage que j'ai découvert, un homme natif de Caen qui, au XVIIIe siècle, est allé s'installer aux États-Unis, Saint-Jean de Crèvecœur. Et vous le citez, Saint-Jean de Crèvecœur, parce qu'il a écrit des lettres d'un cultivateur américain. Et voici ce qu'il écrit. « Nous n'avons connu aucune guerre qui ait ruiné nos champs. Notre religion n'opprime pas le cultivateur. Nous sommes étrangers à ces institutions féodales qui ont réduit les foules en esclavage. Ici, la nature ouvre grand son giron pour accueillir les perpétuels nouveaux venus et pour les nourrir. Je suis certain que l'on ne peut me taxer d'Américain étroit d'esprit lorsque je dis que le spectacle que nous offrent ces scènes plaisantes est plus distrayant et plus philosophique que celui des ruines moisies de Rome. » C'est vraiment le signe d'une époque particulière, 18e siècle, la fondation du pays.
Oui, tout à fait, c'est la fondation d'un pays nouveau. Et ce pays nouveau, je le dis d'ailleurs plus tard, enfin c'est pas moi qui le dis, c'est...
Oui, à la question qu'est-ce qu'un Américain, il écrit, et vous le citez aussi, c'est un homme nouveau.
C'est un homme nouveau. Et donc l'Europe est souvent quelque chose qu'on ne doit pas imiter. Et ça, c'est quelque chose qui traverse l'histoire américaine. L'Europe constitue
ça, c'est important,
une sorte de repoussoir dans beaucoup de domaines. En particulier, la place de l'État en Europe. On en parlera peut-être si on parle des polices. Le contre-exemple, c'est pratiquement Louis XIV, hein, le contre-exemple des États-Unis. Et bien plus, évidemment, le roi George, hein, contre lequel la Révolution a eu lieu, hein, qui a mené à l'indépendance.
Le roi d'Angleterre, l'indépendance en 1776.
Du 18e siècle. Et donc, l'Américain est un homme nouveau et souhaite demeurer un homme nouveau.
Et ça, c'est une mentalité qui a traversé les époques, hein?
Tout à fait. Les Américains ont toujours ce point de vue, hein, vis-à-vis du reste du monde. Ils demeurent un pays exemplaire, même si c'est un pays qui est traversé de fracture.
Alors, Saint-Jean de Crèvecœur disait donc que c'était un pays ouvert aux nouveaux venus pour les nourrir, je le cite. C'était évidemment plus compliqué que cela, dès le début.
Oui, parce que les nouveaux venus, alors Saint-Jean Crèvecœur est peut-être un mauvais exemple puisqu'il était français, mais les nouveaux venus, ça a été pendant longtemps des anglo-saxons, protestants, et puis les choses ont changé au fil du temps. Alors il y avait déjà, même avant l'indépendance, Benjamin Franklin se plaignait du fait qu'il y avait trop d'Allemands en Pennsylvanie. Et puis par la suite, il y a eu d'autres vagues d'immigration et à chaque fois, il y a eu une assimilation relativement difficile, hein. Il y a eu les Irlandais qui sont arrivés au milieu du 19e siècle.
Après la famine.
Après la famine de la pomme de terre en Irlande. Et puis, ensuite, il y a eu les Chinois sur la côte ouest. Et puis, il y a eu les Européens d'Europe du Sud, donc catholiques.
Les Italiens.
Et puis, les Européens du centre de l'Europe, souvent juifs et souvent révolutionnaires également. Ça, vers la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Et ensuite, il y a eu, bien entendu, les Mexicains. Et tout cela, ça a toujours été difficile. Toujours.
Et d'autant qu'il y avait, dès le départ, une population d'esclaves. Et il y a eu les Indiens.
Tout à fait. Il y avait des esclaves et des Indiens qui ne sont pas mentionnés dans la Constitution. Mais la question de savoir si les esclaves devaient être comptés ou pas dans la population américaine s'est posée non pas en termes de citoyenneté, mais en termes de taxation, puisque la taxation se faisait à proportion de la population, et donc les États du Sud ne souhaitaient pas que les esclaves soient comptés. Mais la représentation au Congrès se faisait aussi en fonction de la population. Là, c'était l'intérêt des États du Nord, de compter les esclaves de manière à avoir une représentation plus importante. Et c'est ce qui a été décidé, finalement. Les esclaves comptant pour 2/3 d'une personne pour les élections, bien qu'ils ne pouvaient pas voter, bien entendu, mais pour le nombre de représentants qui étaient envoyés au Congrès. Mais ils n'étaient pas comptés dans la taxation.
Alors, il faut rappeler, vous nous le rappelez d'ailleurs dans ce livre, qui est passionnant et très très précis, que l'abolition de l'esclavage est survenue en 1865 aux États-Unis, après la guerre de sécession, et que les Indiens ont été reconnus qu'en 1924, après la Première Guerre mondiale, après avoir participé au conflit.
Oui, effectivement, ils ont 1924. Été reconnus bien plus tard, bien après les esclaves. Mais il y avait une situation un petit peu particulière avec les Indiens, dans la mesure où ils constituaient officiellement des nations indépendantes, des sortes de nations intérieure plus ou moins indépendante, sans vraiment l'être, et donc il n'avait pas lieu de leur donner la citoyenneté, en quelque sorte. Et donc c'est pour cette raison que cette situation très spécifique, qui était évidemment tout à fait fallacieuse, hein, a duré assez longtemps, et effectivement, ce n'est qu'en 1924 que la nationalité a été reconnue aux Indiens.
Alors cette question d'immigration est le premier thème que vous abordez dans ce livre qui étudie l'identité américaine. L'immigration thème plus que jamais mais important, Trump et les Mexicains, par exemple. Mais moi, l'immigration, ça fait aussi penser au racisme, aux Noirs américains, qui souffrent depuis l'origine, presque, même, on peut dire, depuis l'origine de ce racisme.
Oui, tout à fait. Oui. Après la guerre de sécession, il y a eu donc une libération des esclaves. Et puis, il y a eu l'arrivée au pouvoir d'un certain nombre d'Afro-Américains. Et puis, assez rapidement, les États du Sud ont repris, les Blancs du Sud ont repris le dessus. Et au bout de quelques années, il y a eu la mise en place, comme on le sait, de la ségrégation qui a duré jusque dans les années 50-60. Hein, c'est quelque chose de très prégnant. Les Américains les plus âgés ont connu la ségrégation.
Alors ça, c'est une question que l'on aborde souvent. On va peut-être pas s'y attarder sur cette question de l'immigration, du racisme, bien que nous reparlerons de la violence tout à l'heure. Mais dans ces mots qui touchent l'identité américaine que vous analysez dans ce livre, Didier Combeau, il y a aussi, c'est la deuxième partie, la question du corps. Les relations entre l'État, le politique et le corps des Américains, et notamment le corps des femmes. Je pense notamment à l'avortement, par exemple.
Oui, tout à fait. À toutes les questions de reproduction, en réalité. Il y a eu, au début du XXe siècle, il y a eu toute cette époque où l'eugénisme avait droit de cité, et où on s'est posé beaucoup la question de savoir s'il fallait stériliser, par exemple, les Américains dont on considérait qu'ils ne représentaient pas bien la race américaine, donc entre autres toutes les personnes dont on considérait qu'elles avaient des problèmes mentaux. Il y a eu tout ce qui a concerné la contraception, bien sûr, tout ce qui concerne d'abord la contraception, puis l'avortement. Et effectivement, ce contrôle des corps s'est desserré au cours du XXe siècle. Et c'est ce qui a donné naissance également aux revendications identitaires, qui sont, on le sait, au premier plan maintenant aux États-Unis, ce qui vient se croiser avec le racisme, puisque dans cette idée d'eugénisme, tout comme dans la question de du contrôle de la fertilité, la question de la race est extrêmement importante. Au début du XXe siècle, les eugénistes souhaitaient préserver la race américaine qu'ils estimaient en danger du fait de l'immigration, du fait évidemment de la libération des anciens esclaves, mais aussi du fait de l'immigration dont je parlais tout à l'heure.
Ces revendications identitaires sont plus que jamais d'actualité. On l'a abordé souvent et on continuera sans doute à le faire dans ce magazine, Didier Combeau, notamment dans les universités, qui sont devenues un bastion en fait de ces questions.
Oui, à partir des années Reagan,
donc les années 80.
Des années 80, la gauche s'est retranchée en quelque sorte dans les universités. Et la gauche a plus ou moins abandonné en cours de route sa vision un petit peu rooseveltienne, la vision qui correspondait au New Deal, hein, au moment où l'État a eu une action dans le domaine économique très marquée, et donc une action en faveur des couches sociales les plus défavorisées. Le Parti démocrate a peu à peu abandonné ce terrain-là pour se concentrer sur les questions d'identité, c'est-à-dire...
C'est ce qu'a soulevé le célèbre livre de Marc Lilla, par exemple.
Voilà, ouais. Tout à fait. L'universitaire Marc Lilla estime que c'est une orientation qui n'est pas bonne pour le Parti démocrate. Alors, ça a commencé, bien sûr, avec les droits civiques dans les années 60, avec la libération des femmes dans les années 70, et puis avec le mouvement LGBT par la suite. Et donc, ces questions, elles sont véritablement prégnantes maintenant, au point que l'électorat se trouve un petit peu éparpillé. Il s'agit de, pour les démocrates entre autres, de capter le vote des Afro-Américains, de capter le vote des Hispaniques, de capter le vote des femmes, et cela au détriment peut-être d'un projet de société qui soit plus inclusif.
Oui, parce que la célèbre phrase « Nous, le peuple américain » devient le peuple américain fragmenté.
Tout à fait.
En composantes plus ou moins importantes.
Et ce que dénonce par exemple l'universitaire Marc Lilla, c'est la façon de s'exprimer de ces étudiants qui, lorsqu'ils expriment une opinion, l'expriment en fonction de ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'ils vont dire, commencer leur discours en disant « En tant qu'Afro-Américain, je pense que, ou bien en tant que femme, je pense que, ou bien en tant qu'LGBT, je pense que... » Les gens ne se pensent plus en tant qu'Américains, mais se pensent en tant que membres d'une minorité. Et ça, c'est très, très difficile de diriger un pays qui voit les choses de cette manière.
Didier Combeau, donc parlons de la violence, qui est une des composantes de l'identité américaine, hein, pour le pire. Cette violence est due en grande partie à la libre circulation des armes, on le sait. Il y a des chiffres assez terrifiants. Il y aurait 30 000 victimes des armes à feu par an aux États-Unis.
Oui, à peu près. 30 000 à peu près. Si l'on inclut les suicides, hein, les suicides et homicides. Oui, oui.
Et il y a aussi cette violence policière. Donc, attardons-nous sur cette violence policière en disant que il n'y a pas une police fédérale et une police locale, il y a des polices locales, comté, village, ville, etc., etc.
Oui, tout à fait. On parlait tout à l'heure du fait que l'américain est un homme nouveau et là on en voit une illustration. Il y avait vers le milieu du 19e siècle, au moment où les villes se sont suffisamment développées pour qu'on estime avoir besoin d'une police, il y avait deux modèles de police. Il y avait le modèle français qui avait été créé par Colbert en 1667, qui avait créé la lieutenance de police de Paris. Et dans un but très politique, hein, parce qu'il y avait, comme aux États-Unis à l'heure actuelle, d'ailleurs à Paris, il y avait diverses polices. Il y avait la police des marchands, police des abbayes, puisque les abbayes possédaient une assez grande partie de Paris. Et Colbert donc a créé une police nationale, en quelque sorte, à Paris, pour mieux contrôler la capitale, pour des raisons politiques, pour éviter les insurrections et pour éviter la contestation politique. L'autre modèle de police, c'était le modèle anglais, qui avait été créé donc par Robert Peel, de Robert, dont le diminutif est Bob, et de là vient le nom des Bobbies, hein, à Londres. Et Robert Peel avait énoncé une dizaine de principes, et parmi ces principes, il y en avait un qui est très important, qui est que la police et le peuple... Et le peuple et la police. C'est-à-dire que la police assume des fonctions qui appartiennent aux citoyens, maintien de l'ordre et lutte contre la délinquance, et le fait de manière professionnelle. Mais c'est une sorte de délégation, hein, de la même manière que dans d'autres domaines, vous allez, je sais pas, apporter vos vêtements au pressing parce que le pressing va être plus qualifié que vous pour le faire. Et c'est un petit peu la même vision. Et donc les Américains ont choisi ce modèle de police-là, qui est un modèle de police décentralisé. Et donc ce sont les villes qui ont créé leur police. Chaque ville a son département de police. Il y a également les shérifs, hein, au niveau des comtés, et puis les polices d'État. Et puis, il existe des polices fédérales, hein, depuis le début du XXe siècle, qui petit à petit se sont constituées. On connaît bien surtout le FBI, par exemple. Mais ces polices fédérales, elles sont... le FBI, c'est 30 000 hommes, alors que les polices locales, c'est environ 1 million de policiers. Donc, on se rend compte que la police fédérale est très, très réduite par rapport aux polices locales.
La plus grande police locale étant celle de New York, non ?
Oui, celle de New York, avec environ 30 à 35 000 agents.
Donc il y a une diversité des polices, mais il y a, il faut en parler évidemment, avec l'actualité, ce racisme,
oui,
au sein de ces polices, qui a été illustré encore le 25 mai dernier à Minneapolis, avec la mort de George Floyd, mort étouffé par un policier, hein, Derek Chauvin, qui montrait une fois de plus... qu'il y avait un racisme dans la police qui s'était déjà manifesté avec dans les décennies précédentes, ô combien, qui a provoqué la création de ce mouvement Black Lives Matter.
Oui, alors il y a deux éléments là. Il y a le premier élément, je crois que c'est un élément de violence. Les polices américaines tuent un nombre de citoyens qui est complètement démesuré par rapport à ce qui existe dans d'autres pays. On savait pas très bien combien jusqu'en 2015, et puis à partir de 2015, la presse, en particulier le Washington Post et le Guardian, se sont mis à compter précisément combien de personnes étaient tuées par les polices. Parce qu'auparavant, ce qu'on avait, c'était des chiffres qui étaient agglomérés par le FBI d'après la remontée des départements de police, mais qui n'avaient aucune obligation de remonter ces données. Donc d'après le FBI, il y avait 400 ou 500 personnes tuées chaque année. Et puis quand la presse a compté, on s'est aperçu que c'était plutôt autour de 1100. 1098 l'année dernière, hein, en 2019. Et donc c'est énorme. Si on fait une proportion, les policiers français tueraient, s'il y avait la même population en France, hein, tueraient à peu près 70 personnes par an. Donc c'est complètement démesuré. Et l'autre élément, c'est l'élément racial. C'est les Afro-Américains représentent environ 25% des personnes tuées par la police, alors que dans la population, elles ne représentent qu'environ 12 à 13%. Donc deux fois plus de tués chez les Afro-Américains que chez les Blancs. Alors est-ce que c'est un problème de racisme ? Très probablement, mais il faudrait pas en rester au racisme individuel du policier de base dans la rue. Hein, parce que quelquefois les Afro-Américains sont tués également par des policiers Afro-Américains. Donc et on a pensé pendant un certain temps que si on augmentait le nombre de policiers Afro-Américains, le problème arriverait à se résoudre. Et l'expérience montre que ce n'est pas le cas. Hein. Dans la ville de Détroit, par exemple, les policiers sont majoritairement noirs. Et pourtant, le département de police de Détroit a été accusé de discrimination. Donc c'est plus compliqué.
Ça veut dire quoi, Didier Combeau, que les Afro-Américains sont identifiés à des délinquants?
Il y a dans toute une partie de la population, il y a une peur des Noirs, oui, incontestablement. Mais il y a aussi des données objectives. Les taux de délinquance dans les quartiers afro-américains sont plus élevés que dans les banlieues aisées. Est-ce que c'est une question de couleur de peau ou est-ce que c'est une question de pauvreté? Il est bien évident que c'est beaucoup plus probablement une question de pauvreté. Ça n'est pas forcément ce que pensent tous les Américains, d'ailleurs. Mais depuis les années 70... les États-Unis ont adopté des lois pénales extrêmement sévères. On pense en particulier à des lois comme « three strikes and you're out », où au bout de trois fois, vous êtes hors jeu. C'est une règle qui vient du baseball et qui consiste à punir très sévèrement les récidivistes. On parle souvent de cette personne qui s'est trouvée en prison pour un vol de pizza. Ce qui fait que les Afro-Américains qui sont dans des quartiers où il y a beaucoup de délinquance, qui ont un niveau de délinquance supérieur aux autres quartiers pour des questions de pauvreté, se retrouvent plus souvent en prison que les autres. Une fois qu'on est allé en prison et qu'on en ressort, on se trouve privé de l'accès aux droits sociaux, de l'accès au logement social, et donc on se retrouve encore plus pauvre qu'auparavant et encore plus à risque de sombrer dans la délinquance. Et donc les quartiers afro-américains se retrouvent pris dans cette sorte de spirale. Et la police également, parce que les armes circulent, comme vous le disiez, très, très librement. Et donc le risque pour un policier de se trouver en face d'un délinquant armé est très important. Et le risque que le délinquant fasse usage de son arme est aussi très élevé, parce que les enjeux sont très élevés du fait de la répressivité des lois pénales. Mais la violence, si on en juge par le taux d'homicide, qui est l'indicateur le plus fiable hein, de la délinquance et de la violence, est en diminution.
Individuality and creativity.
Yeah, get it.
I hate it that I have to ask for more. Hands up, everybody. Cash on the floor. 30 seconds to pick it up. Get my ass out the door.
Get your money up.
Or I'll leave, stick my hand in the candy jar. Take the keys off the table. That's Randy's car. Get cocky like a reach up and grab a handful of stars. Press hard on the gas till my feet touch the ground. Beat up the ground while I bring up the sound. Disappear into space, you won't hear a fucking sound.
It's time to get the fucking money.
Detroit bad boys, they'll run in your place. Put a gun in your face. Pull the funds from the safe. The slums ain't safe. Detroit bad boys, they'll run in your place.
Time to get it, fuck not getting it. What's not making it, I don't want that. So show me so I don't walk into it. If it's making money, I'm into it. I participate, I'll be intimate. Eastside Detroit, nigga, what you dealing with? I've been through hell so I can deal with it. Never been in sales, but Illuminati trying to get up in my brain cells. Luckily, I'm not ignorant. I live for this, I kick it with the brightest stars in the galaxy. On a high note, many represent. Come and rob you in your home while you chilling in your robe. Open your slippers, bitch. Push you out your flip flops. Make you slip and miss while you listen to this hip hop. I'll go pimp your chick. Call me Mr. Big. That's what she said. I'm not slipped it in. Only here for one. Think I'm here to win. Peekaboo, bitch. Once again, pass the chin.
Detroit bad boys, they'll run in your place. Put a gun in your face. Pull the funds from the safe. The slums ain't safe. Detroit bad boys, they'll run in your place. Pull the funds from the safe. This love ain't safe.
Idée. La parole à ceux qui pensent le monde.
Alors il faut parler maintenant de cette notion d'égalité qui est consubstantielle un petit peu à la création des États-Unis. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui les États-Unis n'ont jamais été aussi inégalitaires ?
Ah, en termes de revenus, sans aucun doute, oui. Les inégalités de revenus ont beaucoup augmenté, pas seulement aux États-Unis d'ailleurs, mais sous l'impulsion des États-Unis. Hein, après l'élection de Reagan dans les années 80, les écarts de revenus ont beaucoup augmenté.
Ah, vous dites par exemple que la part du revenu national capté par les plus pauvres, c'est-à-dire après impôts, hein, est passée de 20% en 1960 à 12% en 2018. C'est-à-dire qu'il a considérablement baissé, presque de moitié.
Oui, tout à fait. La redistribution de l'impôt, hein, si on en croit deux économistes français d'ailleurs qui travaillent aux États-Unis mais qui viennent d'écrire un livre, la progressivité de l'impôt a beaucoup diminué. Pourquoi ? Pour éviter l'évasion fiscale, pour éviter que les gros contribuables se réfugient dans les paradis fiscaux. Et la redistributivité est maintenant très faible.
Alors il faut parler aussi, et c'est dans votre livre, hein, Être américain aujourd'hui, de cette société américaine, du rôle que joue l'État. On sait que depuis toujours, vous l'avez dit tout à l'heure d'ailleurs Didier Combeau, que les États-Unis se sont créés, ont pris très vite comme contre-modèle l'Europe et son État. Les relations entre l'État fédéral et les États fédérés, les individus, sont très compliqués aux États-Unis.
Oui, alors on oublie souvent que les États-Unis sont un pays fédéral. D'ailleurs, leur nom même est un nom commun. Hein. C'est des États qui se sont unis.
On l'a un petit peu redécouvert, Didier Combeau, avec le Covid, où on s'est aperçu que les gouverneurs d'État allaient contre ce que disait le pouvoir central à Washington.
Oui, tout à fait. Alors, pourquoi ? Parce qu'on en revient encore à la police. Hein. Les questions de police et la lutte contre le Covid, c'est une question de police, hein, lorsqu'on décide d'un confinement, c'est une question de police au sens large, hein, pas de policiers, mais une question de politique publique de police. Oui. Et ces prérogatives-là appartiennent aux États. De la même manière d'ailleurs que l'enseignement. On parle beaucoup en ce moment de la réouverture des écoles en septembre. Hein, Trump pousse autant qu'il le peut pour faire réouvrir les écoles et les universités, mais surtout les écoles, hein, parce que de l'ouverture des écoles dépend l'ouverture de l'économie. Et Trump veut se faire réélire sur sa politique économique. Donc, mais Trump ne peut pas dire on ferme ou on ouvre les écoles. Ça dépend des États et des districts scolaires même, donc d'institutions qui sont même en deçà de l'État. Et tout ce que peut faire l'État fédéral, c'est utiliser le pouvoir de l'argent, hein, le pouvoir du portefeuille, c'est-à-dire dire, c'est ce que Trump menace de faire, dire on ne subventionnera pas les écoles qui ne ouvriront pas. Et les subventions fédérales dans le domaine scolaire, c'est de l'ordre de 10% environ.
Mais pour bon nombre d'Américains, je ne peux pas quantifier leur nombre, l'État, c'est l'ennemi, c'est l'adversaire, c'est celui qui impose l'impôt, c'est celui qui impose des lois dans un pays qui s'est justement créé sur la liberté.
Oui, tout à fait. Et les Américains sont beaucoup plus, si on prend par exemple le Texas, les Texans sont beaucoup plus texans qu'Américains. Ils sont Américains si l'Amérique va dans le sens du Texas, en quelque sorte. Et donc, c'est le gouvernement fédéral, pour un certain nombre d'Américains, hein, pour les libertariens, ceux qu'on appelle les libertariens...
C'est-à-dire ceux qui comptent uniquement sur l'initiative individuelle, c'est-à-dire voilà. Que chacun est responsable de soi.
Oui, c'est ce qu'on appellerait, en France, si on veut, c'est ce qu'on appellerait des libéraux. Oui. Et pour eux, l'État fédéral, c'est l'ennemi absolu. Le gouvernement, ce qu'on appelle le gouvernement aux États-Unis, c'est-à-dire l'État, ce qu'on appelle l'État en France, c'est-à-dire autant les communes, les communes, les comtés, les États, et le gouvernement fédéral, plus cet État est éloigné, et mieux ça vaut.
Voilà. Ouais. Ouais. Et il y a aussi cette association entre l'État et le socialisme. Là, je pense à toutes les lois dans le domaine de la santé. C'est un domaine que vous abordez dans ce livre, évidemment. Il ne faut pas aller trop loin, selon les plus conservateurs. Sinon, on va ressembler à l'Europe, on va ressembler à la France. Donc, on va être un pays socialiste.
Voilà.
C'est ce que disent beaucoup d'Américains.
Tout à fait. Si on voit les propositions qui sont faites, par exemple, par Sanders, hein, qui était candidat à l'investiture démocrate, il propose ce qui s'appelle Medicare for All, hein, le assurance santé pour tous, c'est quelque chose qui ressemble tout à fait à ce qui existe en Europe. C'est quelque chose qui est caricaturé par les républicains comme du communisme pur et simple.
Ouais. C'est assez étonnant, vu de Paris, vu de France, de voir ces différences. La singularité des États-Unis, c'est que quand on y arrive, on a l'impression que c'est comme en Europe, mais on s'aperçoit très vite que dans les esprits, dans l'organisation, c'est différent.
Il y a énormément de différences. En ce moment, par exemple, avec la crise du Covid, beaucoup d'Américains ont perdu leur emploi. Et aux États-Unis, lorsqu'on perd son emploi, on perd aussi son assurance santé. Et non seulement on a une perte de revenus, mais en plus, on doit assumer des paiements d'assurance qui sont très élevés si on veut continuer à être assuré. Sinon, on n'est plus assuré. Et c'est évidemment d'autant plus ennuyeux quand il s'agit d'une épidémie.
Ouais. Alors il y a un autre domaine qu'il faut souligner, que vous faites, vous le soulignez dans le livre, Didier Combeau, c'est le rôle de la Cour suprême et le rôle de la justice. Vous notez que Alexis Tocqueville l'avait pressenti, comme dans d'autres domaines et pour beaucoup de choses, lui qui écrivait donc au XIXe siècle, hein, il n'est presque pas de questions politiques aux États-Unis qui ne se résolvent tôt ou tard en questions judiciaires.
Oui, il a fait preuve d'une grande vision lorsqu'il a dit ça, puisque c'est plus vrai que jamais aujourd'hui, hein. J'expliquais tout à l'heure que le Congrès avait beaucoup de mal à adopter des lois qui soient bipartisanes, ce qui fait que le Congrès est plus ou moins bloqué. Et donc toutes les questions de société finissent à la Cour suprême. Alors qu'est-ce que c'est que la Cour suprême ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, il y a 51 systèmes judiciaires. Il y a les 50 systèmes judiciaires de chaque État. Qui applique l'essentiel des lois criminelles. Hein. Et puis, il y a un système judiciaire fédéral, avec différents niveaux, hein, tribunal de première instance, tribunal d'appel, et puis, au bout du compte, la Cour suprême, qui est constituée de 9 juges, et les affaires peuvent arriver à la Cour suprême d'appel en appel. La Cour suprême est loin d'examiner toutes les affaires qui lui sont soumises. La justice fédérale, elle intervient surtout pour la défense du droit des individus. Par exemple, c'est la Cour suprême qui a libéralisé l'avortement. Alors, comment est-ce qu'elle a libéralisé l'avortement ? Bien, tout simplement, il y avait une loi d'un État qui interdisait l'avortement. La personne qui souhaitait, qui est restée anonyme d'ailleurs, qui souhaitait pouvoir obtenir un avortement, on a appelé à la justice fédérale. Et d'appel en appel, cette affaire est arrivée devant la Cour suprême qui a décidé qu'il était contraire à la Constitution d'interdire l'avortement. Et donc les États, au moins dans les premiers mois de la grossesse, n'ont plus le droit, du fait de cet arrêt de la Cour suprême, d'interdire l'avortement.
Mais ce qui est assez fascinant, Didier Combeau, c'est que sur toutes les affaires dites de société ou touchant les mœurs, la progression s'est faite grâce à des arrêts de la Cour suprême. Et des arrêts sont devenus on fait jurisprudence. C'est-à-dire que le droit américain avance à coup de jugement de cas particuliers.
Oui, tout à fait. Si on prend par exemple l'exemple du mariage interracial qui a été interdit par beaucoup d'États. Alors là encore, c'est pas une prérogative fédérale. Le mariage concerne les États. Et donc certains États interdisaient le mariage entre un homme ou une femme blanche et un homme ou une femme noire. Et ce qu'ont fait les militants qui ont voulu faire abolir ces lois, c'est qu'ils ont cherché un cas qui soit plaidable devant les tribunaux. Et ils ont trouvé le cas d'un couple qui s'appelait Loving, d'ailleurs. Les bien nommés. Il y a un film qui a été réalisé assez récemment là-dessus. Il a s'agit de mettre en cause la loi d'un État, la Virginie en l'occurrence, et de dire que cette loi n'était pas conforme à la Constitution. Et c'est effectivement ce qu'ont décidé les juges fédéraux de la Cour suprême. Et ce qui est très important, c'est que les arrêts de la Cour suprême s'appliquent à l'ensemble des États-Unis. Alors, en ce moment, il y a par exemple un État, l'Alabama, qui a adopté une loi pour faire interdire l'avortement. Alors, le but, c'est peut-être d'interdire l'avortement dans l'Alabama, mais c'est aussi de faire que cette loi soit contestée devant la justice fédérale, de manière à ce que ça monte jusqu'à la Cour suprême, et que la Cour suprême décide qu'effectivement, les États n'ont pas le droit d'autoriser l'avortement. Et cet arrêt de la Cour suprême, s'il se matérialisait, s'appliquerait à l'ensemble des États-Unis. Donc à partir d'une loi de l'Alabama, on parviendrait à faire interdire l'avortement dans tous les États-Unis.
Et c'est ainsi qu'il faut parler de la composition de cette Cour suprême.
Oui, alors cette Cour suprême, elle est composée de 9 juges qui sont nommés à vie. Alors, ils sont nommés par le président, leur nomination est proposée par le président, et elle doit être entérinée par le Sénat. D'où l'importance des élections sénatoriales hein, qui vont avoir lieu. Chaque État envoie 2 sénateurs à Washington, donc il y a 100 sénateurs en tout. Et auparavant, il y avait un système d'obstruction qui faisait que l'on pouvait exiger pour la nomination des juges qu'il y ait une majorité qualifiée de 60 sénateurs sur les 100. Et puis ça a été supprimé. Donc maintenant, il suffit de 51 sénateurs pour confirmer un juge.
Ah, il faut préciser et rappeler qu'il y a 2 ans, lors des élections demi-mandat, les démocrates ont gagné la Chambre des représentants, mais n'ont pas gagné le Sénat.
Voilà, ce qui fait que c'était qu'une demi-victoire. Ouais. Parce que toutes les grandes questions de société, hein, l'avortement, les armes à feu...
C'est ça, donc la politique interfère dans la justice. C'est-à-dire que les choix des juges de la Cour suprême sont faits en fonction des nominations qu'ont faites les présidents, conservateurs ou pas, et il faut attendre leur mort en fait pour qu'il y ait un changement.
Oui, tout à fait. Ils sont nommés à vie. Alors ils sont peu nombreux, hein, ils sont 9, et chiffre impair. Hein. Ils sont nommés à vie, et donc ils peuvent rester à la Cour suprême pendant très très longtemps. Donald Trump a eu la chance, et d'ailleurs il s'en est servi au moment de sa campagne électorale, il a eu la chance de pouvoir remplacer des juges fédéraux. Il a nommé 2 juges, et alors il a remplacé les juges qui ne sont plus là, l'un est mort et l'autre a démissionné, étaient des juges conservateurs, mais ils étaient âgés. Et là, Donald Trump a remplacé 2 juges conservateurs âgés par 2 juges qui ont la cinquantaine et qui donc seront peut-être là encore dans 20 ou 30 ans, alors que les juges progressistes sont beaucoup plus âgés. Hein. Je pense en particulier à RBG, Ruth Bader Ginsburg, qui est une véritable égérie de la gauche, hein, une femme féministe qui a réussi à se hisser jusqu'à la Cour suprême. Elle est très âgée. Alors je ne sais plus son âge exact, mais c'est autour de 87 ans, si je ne me trompe pas. Et donc le risque, c'est que si Trump est réélu et si le Sénat demeure républicain, le risque, c'est que ce qui est considéré par un risque pour la gauche, en tout cas, et qu'il y ait une majorité de juges conservateurs à la Cour suprême pour très longtemps.
Même si l'on peut considérer qu'un juge conservateur n'est pas forcément un juge qui va voter toujours dans la ligne du président qui l'a nommé, fût-il un président qui n'est plus au pouvoir.
Non, c'est bien pour ça qu'ils sont nommés à vie, d'ailleurs. Parce que le fait d'être nommé à vie leur donne une certaine indépendance vis-à-vis du pouvoir. Et il y a des surprises. Hein, on pense en particulier à la Cour Warren hein, dans les années 50-60, qui était censée être conservatrice et qui a déségrégué les écoles, par exemple. Et là, la Cour actuelle, d'ailleurs, a pris quelques arrêts qui n'étaient pas tout à fait du goût de Donald Trump.
Alors parlons d'un autre domaine dans cette constitution d'identité américaine, pleine de paradoxes, Didier Combeau. Vous développez un thème qui, lui aussi, est rarement développé quand on parle des États-Unis, c'est les Américains et la nature. Alors on sait qu'ils sont les premiers pollueurs du monde, mais ils ont été aussi les premiers aux États-Unis à préserver en quelque sorte la nature, avec notamment les parcs nationaux.
Oui, tout à fait. Quel
paradoxe.
C'est John Muir, hein, un auteur américain du fin du 19e siècle, début du 20e siècle, qui a fait créer les premiers parcs nationaux. Alors le but des parcs nationaux, c'était de conserver la nature
d'origine.
De préserver la nature, excusez-moi, telle qu'elle était à l'origine. Et puis il y a eu un deuxième courant dans le domaine de protection de la nature qui a été le conservationnisme. Où là, c'était un concurrent de John Muir, Gifford Pinchot, qui lui souhaitait préserver la nature, non pas pour la nature elle-même, mais pour le bénéfice que l'humanité pouvait en tirer. C'est-à-dire qu'il avait une vision très anthropocentrée. Le but n'était pas de préserver les forêts, mais il fallait préserver la ressource en bois. Et ces deux visions continuent d'exister.
Et il y a cette attitude ambiguë, mais il y a cet amour profond quand même de beaucoup d'Américains pour cette nature, quand les intérêts économiques ne viennent pas les contrecarrer.
Oui, tout à fait. Alors, les intérêts économiques, bien entendu, vont à l'encontre des préoccupations écologiques. Mais depuis quelques années, il y a une nouvelle dimension qu'on a vu apparaître, c'est la dimension mondiale des questions d'environnement.
Ah, il faut rappeler que les États-Unis de Donald Trump ont quitté l'accord de Paris, hein, par exemple.
Oui. Et les conservateurs américains, de la même manière qu'ils sont tout à fait opposés à un trop grand pouvoir du gouvernement fédéral, ils sont encore plus opposés à tout gouvernement supranational, c'est-à-dire à toutes les organisations telles que les Nations Unies, ce qui explique qu'ils contestent les notions de réchauffement climatique ou de l'origine anthropologique, en tout cas, du réchauffement climatique.
Didier Combeau, on a évoqué quelques points que vous analysez dans ce livre hein, pour essayer de répondre à la question « être américain aujourd'hui ». On a très peu parlé de politique, mais il faut quand même terminer cette émission en parlant de politique, mais au sens large, est-ce que le modèle de contrôle du pouvoir élaboré par les constituants de Philadelphie, hein, ceux qui ont fait la constitution de Philadelphie en 1787, est-ce que ce modèle tient toujours le coup ? Pardonnez-moi d'être aussi familier, vous nous expliquez dans le livre que ce système d'équilibre est un petit peu vacillant. Hein ?
Oui, il est vacillant.
Équilibre entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.
Oui, les constituants avaient centré le pouvoir sur le Congrès. Hein. La Constitution est en trois parties. Hein. La première partie sur le Congrès, la deuxième partie sur le président, qui est un pouvoir exécutif hein, des lois, et puis la dernière partie sur la justice. La plupart des prérogatives appartenaient au Congrès. Et petit à petit, il y a eu un déplacement vers la présidence et le Congrès arrive de moins en moins à remplir son rôle du fait de la polarisation des partis politiques. Auparavant, il y avait une intersection assez importante entre le parti républicain et le parti démocrate en termes idéologiques. C'est-à-dire qu'il y avait des démocrates qui étaient plus à droite, entre guillemets, que certains républicains. Il y avait des dimensions régionales qui jouaient. C'est de moins en moins le cas. C'est-à-dire que les sympathisants républicains sont de plus en plus à droite et les sympathisants démocrates de plus en plus à gauche. Pour ce que ça peut vouloir dire, parce qu'il y a la question du rôle de l'État qui est perçu tout à fait différemment à droite et à gauche. La gauche souhaitant que l'État intervienne au niveau économique ou pour préserver les droits des femmes, des Afro-Américains et des minorités en général. À droite, les conservateurs vont être tout à fait favorables à l'intervention de l'État dans les domaines moraux, pour l'interdiction de l'avortement, par exemple. Et donc, les uns et les autres souhaitent une intervention de l'État, mais pas la même.
Cette intervention, cette présidence impériale est apparue assez tardivement dans l'histoire américaine. Qui a donné cette importance à la présidence? C'est Roosevelt, par exemple,
Roosevelt,
en 1945.
Oui, tout à fait. C'est Franklin Delano Roosevelt au moment.
Donc c'est à partir de lui qu'on a parlé ensuite de présidence impériale.
Oui. Et c'est surtout à partir de lui que l'échelon fédéral a pris une telle importance. C'est sous Franklin Delano Roosevelt, par exemple, que beaucoup d'agences ont été créées, comme par exemple le FBI. Hein, on parlait des polices. C'est un produit du New Deal, hein, le FBI. Et donc, l'échelon fédéral a pris de plus en plus d'importance. Ça avait commencé avant. Hein. Il y a eu dans les années 1910, par exemple, la mise en place de l'impôt sur le revenu, l'impôt fédéral sur le revenu, qui est quelque chose de très important parce que il établit un lien direct entre les citoyens et le gouvernement fédéral, qui n'existait pas auparavant. Auparavant, l'État fédéral tirait ses revenus essentiellement des droits de douane. Et donc, ça ne faisait pas des Américains des contribuables de l'État fédéral. Et à partir du moment où on est contribuable de l'État fédéral, eh bien, on a des droits également, et l'État fédéral a pu intervenir pour défendre les droits de ses citoyens.
J'ai essayé de parler le moins possible de Donald Trump dans cette émission. On a commencé avec lui, on va quand même terminer avec lui. Il est en perte de vitesse dans les sondages. Joe Biden sera son adversaire pour les démocrates. Comment qualifier, vous qui avez le recul de l'histoire, historien, ce président Donald Trump?
C'est certainement le président qui a donné la plus mauvaise image des États-Unis.
Ça, c'est sûr.
Incontestablement. Après, faire son bilan, c'est évidemment un petit peu tôt, parce que il faut quand même distinguer le personnage qui donne son opinion à coup de tweet sur à peu près tous les sujets, et puis l'action véritable du gouvernement fédéral qui est un petit peu différente. Alors, en ce moment, il est en perte de vitesse, incontestablement. Faut toujours se méfier des prévisions et des sondages. Mais néanmoins, il est en perte de vitesse. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est que parmi les gens qui disent qu'ils vont voter Biden, les deux tiers disent qu'ils vont voter Biden pour mettre fin à la présidence de Donald Trump.
C'est ça, c'est un retour en fait à une certaine normalité.
Okay. Voilà, un retour à une certaine normalité. Alors que les électeurs qui disent qu'ils vont voter pour Donald Trump, aux deux tiers disent qu'ils vont voter pour Donald Trump parce qu'ils veulent Donald Trump comme président. Donc, si vous voulez, Donald Trump mobilise beaucoup plus ses électeurs que Biden, qui est un petit peu le choix par défaut à l'heure actuelle des électeurs. Et on se demande donc ce qui va se passer si Biden est élu, parce que est-ce que Trump acceptera sa défaite, c'est quelque chose qui agite un petit peu les observateurs en ce moment aux États-Unis.
Oui, et qui en dit long sur le climat politique. Que l'on puisse déjà s'inquiéter d'un président qui serait battu dans les urnes et qui refuserait de partir, qu'on s'inquiète de cette situation-là. Pour le coup, je ne sais pas s'il y a des précédents dans l'histoire américaine.
Il y a le président Obama déjà, parce que la légitimité d'Obama a été contestée par les conservateurs, ce qu'on a appelé les birthers, qui étaient les gens qui prétendaient que Obama n'était pas légitime pour être président des États-Unis parce qu'il n'était pas né aux États-Unis, alors que la Constitution américaine le demande.
Trump faisait partie d'ailleurs de ce
mouvement. Et Trump était un des chefs de file de ce mouvement-là. Et après l'élection de Trump, la légitimité de Trump a été mise en cause parce qu'il n'avait pas obtenu une majorité du vote populaire, parce que du fait de ce système à deux étages, on peut effectivement...
Qui pose aussi des problèmes redoutables en termes de démocratie, aujourd'hui.
Oui, c'était... Alors... Oui et non, parce que, encore une fois, on revient au fait que les États-Unis sont des États qui sont unis, et que donc chaque État dispose de deux sénateurs, au niveau du Sénat, les États sont égaux, quelle que soit leur population, et c'est le même principe pour les grands électeurs, ce qui fait que les petits États ont plus de poids que les grands États. Et puis il y a un système du winner take all, si à partir du moment où un candidat arrive en tête dans un État,
il
remporte
tout.
Tous les grands électeurs de l'État.
En tout cas, l'élection prochaine de novembre va être importante sur le plan politique et va se dérouler dans un climat très étrange, qui est le climat du Covid.
Le climat du Covid qui empêche les meetings de se tenir. Biden a tenu très peu de meetings.
Qui a empêché les conventions.
C'est quelque chose de tout à fait inédit et qui va faire de cette élection une élection très très particulière.
Dont on aura l'occasion de reparler, j'en suis sûr, avec vous.
Très probablement.
Merci Didier Combeau. Votre livre s'intitule « Être américain aujourd'hui, les enjeux d'une élection présidentielle ». Il est publié chez Gallimard dans la collection « Le Débat ».
Merci.
Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Ravansky. Nous vous donnons rendez-vous samedi pour une semaine d'actualité et dimanche pour la première des quatre nouvelles diffusions d'idées durant ce mois d'août. Merci de votre fidélité. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.